RFI, les 22h, ici à Paris, minuit, à Damas.
Martin Guez.
Et à la une ce soir, un nouveau gouvernement en France qui n'a pas grand-chose de neuf. Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Emmanuel Valls font leur retour. Bruno Retailleau et Rachida Dati sont toujours là. Le Premier ministre François Bayrou fait le choix de l'expérience. En Syrie, le ballet diplomatique continue. Le nouveau régime du groupe Ayatollah al-Sham a reçu ce lundi une délégation jordanienne. Un rendez-vous hautement stratégique, nous dira notre correspondant Mohamed Erami. En Ukraine, Volodymyr Zelensky s'agace de la visite du Premier ministre slovaque Robert Fico à Moscou. Alors que la Roumanie a un nouveau gouvernement elle aussi, au moins provisoire. Et alors que le premier tour de l'élection présidentielle dans le pays a récemment été annulé, enfin du neuf avec du vieux, le retour de Jean-Sébastien Bach, oui, pour un spectacle parisien, un comeback qu'a testé pour nous Carla Nussmann, ce sera en fin de journal. Après 10 jours de tractations et consultations en tout genre, la composition du nouveau gouvernement est tombée, le quatrième de l'année 2024. Et l'année qui se termine presque comme elle a commencé, puisqu'Elisabeth Borne, première ministre en janvier, termine l'année au ministère de l'Éducation. Gérald Darmanin avait lui fêté l'année à l'intérieur. Il passera le prochain réveillon comme ministre de la Justice. Emmanuel Valls fait lui aussi son retour, l'ex-chef de gouvernement, qui est désormais ministre des Outre-mer. Bruno Retailleau et Rachida Dati, déjà présents sous Michel Barnier, conservent leur portefeuille, à savoir l'intérieur et la culture. François Bayrou qui s'est dit fier de ce gouvernement d'expérience qui comporte 34 membres. Gouvernement qu'il est venu défendre il y a quelques minutes sur le plateau de nos confrères de BFM TV. Il réfute toute influence du Rassemblement National sur la composition de son équipe. Il se dit également persuadé que son gouvernement ne sera pas censuré. François Bayrou qui a donc fait du neuf avec du vieux, estime Philippe Gosselin, député de la droite républicaine.
On en saura évidemment plus au moment du discours de politique générale, donc on va rester encore un peu sur notre faim, mais allez, on va constater que pour le moment, on a un peu un mixte des gouvernements Borne, Attal, Barnier. On est loin de la nouveauté, hein, quand on a des ministres d'État comme Borne, ancienne première ministre, Valls, ancien premier ministre, Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur pendant de longues années. Et ceci étant, je crois que le choix du premier ministre, qui n'était pas non plus dans la nouveauté, était d'essayer de mobiliser un certain nombre de poids lourds. Alors, je ne sais pas si ça traduira concrètement un ancrage et un poids suffisant du gouvernement pour faire face à une majorité qui reste quand même très fragile et partielle à l'Assemblée. Mais il y a ce pari, en tout cas, d'avoir des gens expérimentés.
Propos recueillis par Charles Turien Tomaca, le premier conseil des ministres de cette nouvelle équipe qui se tiendra le 3 janvier prochain. Et le discours de politique générale de François Bayrou, ce sera le 14 janvier, la composition du gouvernement que vous pourrez retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. L'annonce du nouveau gouvernement qui vient donc conclure une journée de deuil national en France, drapeau en berne et minute de silence en hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte. Cyclone qui a fait au moins 35 morts, sans doute beaucoup plus, et ce alors que les habitants manquent toujours de vivre et manquent notamment d'eau potable. L'État français vivement critiqué pour le retard de l'aide humanitaire. Emmanuel Macron qui a promis une loi spéciale pour rebâtir Mayotte et mettre fin au bidonville, ce qui pourrait prendre près de 2 ans, selon le Premier ministre François Bayrou. En Syrie, à présent, 3 ONG appellent le nouveau pouvoir à conserver les preuves des atrocités commises sous Bachar al-Assad. Des preuves essentielles pour établir le sort de dizaines de milliers de disparus et pour poursuivre les auteurs de ces exactions. Avant que justice soit faite, le nouveau pouvoir de Damas continue, lui, de recevoir les délégations diplomatiques du monde entier. Ce lundi, c'est la visite d'un voisin qui a fait grand bruit, celle du ministre jordanien des Affaires étrangères. Il s'agit de la visite arabe la plus importante depuis la chute de Bachar al-Assad. Un déplacement hautement stratégique, correspondance de Mohamed Erami.
Ayman al-Safadi, ministre jordanien des Affaires étrangères, s'est rendu à Damas pour rencontrer Ahmad al-Shara, chef de la nouvelle administration syrienne. Cette visite, la plus élevée depuis des années entre la Syrie et un pays arabe, s'est concentrée sur 3 points principaux. D'abord, la reconstruction des institutions syriennes. La Jordanie a proposé son aide pour accélérer la transition et stabiliser le nouveau gouvernement. Ensuite, la sécurité. Amman insiste sur la nécessité de mettre fin au trafic de drogue et d'armes qui menacent les frontières communes. Enfin, la question des réfugiés syriens. La Jordanie refuse de forcer les Syriens à rentrer, mais appelle Damas à créer les conditions d'un retour volontaire et sécurisé. Une visite hautement symbolique qui montre l'implication croissante de la Jordanie dans la région.
Explication signée Mohamed Erami. RFI, il est 23h05 à Moscou, en Russie. Près de 3000 soldats nord-coréens ont été tués ou blessés dans des combats avec les forces ukrainiennes. Combats dans la région frontalière de Koursk, région en partie occupée par l'Ukraine. Bilan assuré en tout cas ce lundi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, une estimation trois fois supérieure à celle formulée par l'état-major sud-coréen. Volodymyr Zelensky qui a par ailleurs taclé le premier ministre slovaque Robert Fico, qui l'accuse de vouloir aider Vladimir Poutine. Robert Fico qui était à Moscou ce dimanche, et avec au cœur de l'affaire l'approvisionnement en gaz russe. Julien Chavanne.
Les deux hommes se sont retrouvés comme deux vieux amis, poignée de main et grand sourire entre Vladimir Poutine et Robert Fico hier au Kremlin. Le dirigeant slovaque était surtout venu parler de gaz. La Slovaquie est très dépendante des livraisons russes, mais dans quelques jours, à la fin de l'année, son approvisionnement par l'Ukraine sera coupé. Kiev n'a pas renouvelé son contrat avec Moscou. Et ce n'est pas qu'une question énergétique pour le dirigeant slovaque. Selon l'entourage du président ukrainien, Bratislava ferait d'énormes bénéfices grâce à des ristournes sur le gaz russe. Le but principal de Robert Fico est de faire des affaires avec la Russie, attaque Volodymyr Zelensky dans un long message publié sur le réseau X. La semaine dernière, déjà à Bruxelles, il avait mis en garde ceux qui voudraient faire de l'argent sur le sang des Ukrainiens. L'opposition en Slovaquie a elle aussi critiqué ce déplacement, consternée par ce rapprochement, alors que le pays est membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Mais ce n'est pas le premier à faire ce voyage. Le Hongrois Viktor Orban était à Moscou l'été dernier, là encore pour assurer ses livraisons de gaz pour l'hiver.
Julien Chavanne. Et puis toujours en Europe de l'Est, direction la Roumanie, qui traverse une grave crise politique depuis l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 24 novembre dernier. Un gouvernement provisoire va assurer l'intendance. Quatre forces politiques roumaines pro-européennes se sont mises d'accord aujourd'hui pour créer une coalition à la tête du pays contre la percée de l'extrême droite. Et ce alors que le candidat pro-russe Calin Georgescu était arrivé en tête lors de ce premier tour annulé pour cause de soupçons d'ingérence russe, notamment sur le réseau social TikTok. Un nouveau gouvernement provisoire chargé de remettre la Roumanie sur les rails de la démocratie, Victorien Thomas.
Stabilité et unité face à la montée du nationalisme, ce sont les maîtres mots de ce gouvernement de transition. On garde le même premier ministre, le pro-européen Marcel Ciolacu. Le chef du gouvernement sera donc à la tête d'une coalition avec pour objectif d'empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. La tête d'affiche de cette extrême droite roumaine, c'est le candidat Calin Georgescu, critique de l'Europe, de l'OTAN et de toute aide militaire à l'Ukraine. Il est arrivé en tête par surprise avec 23% des votes au premier tour de la présidentielle, contesté puis annulé le 6 décembre. Inconnu au bataillon deux mois plus tôt, il aurait profité de l'ingérence russe pour récolter un maximum de voix, notamment à travers le réseau social TikTok. La mission principale du Premier ministre Marcel Ciolacu sera d'organiser une nouvelle présidentielle dans le calme. Après la frayeur du scrutin avorté du 24 novembre, la coalition a retenu la leçon en annonçant le nom de son candidat unique, Clin Antonescu, 65 ans, ancien président libéral du Sénat. Un nom, mais pas encore de date annoncée pour le futur scrutin prévu d'ici mars 2025.
Enfin, on termine en musique car Jean-Sébastien Bach fait son comeback. Ça se passe au Luciernaire à Paris, où quatre musiciennes emportent tout sur leur passage. Carmen Lunzmann a succombé à ce back-to-back.
Bach, c'est un peu le père de tous les compositeurs. C'est un grand monument. Il a tellement inventé de choses. Bach est un peu jazz. C'est un compositeur où tout est possible.
Société comme Bach, bonjour.
Que ce soit dans les ascenseurs, à l'aéroport ou lors d'attentes téléphoniques, Bach n'a jamais été aussi vivant, même près de trois siècles après sa mort. C'est le constat amusant et entraînant de quatre virtuoses qui revisitent les plus grands tubes du compositeur allemand, au corps anglais majestueux ou au mélodica, sorte d'harmonica avec tuyaux et claviers dont elles sortent allègrement les gammes les plus époustouflantes, tout en rajoutant quelques notes biographiques dans le récit.
Avec 20 enfants, on peut s'arrêter ?
Amandine Dehan, contrebassiste, et Anne Baquet, soprano.
On raconte pas vraiment sa vie, mais on navigue entre les notes qu'il a composées, on les détourne un peu, on s'en amuse beaucoup.
De toute façon, plein de compositeurs étaient inspirés par Bach. Même les Beatles, forcément, n'auraient pas évolué de cette manière si Bach n'avait pas été là.
Voilà, ça s'appelle Comeback, spectacle musical à découvrir jusqu'au 12 janvier 2025. Ça se passe au Théâtre Luciernaire à Paris. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous retrouverez tout de suite Jean-François Cadet pour vous m'en direz des nouvelles. Excellente soirée à l'écoute des RFI.